matin. Merci. Merci aussi pour ceux qui sont devant leur écran en train de nous suivre. Merci aussi à la technique pour ceux qui ont sauté sur le wagon à la dernière minute. Merci Raymond. Merci pour toute l'équipe aussi qui s'est engagée ce matin. Pour les potes du dimanche aussi qui sont là. Soyez les bienvenus si vous êtes ici pour la première fois. Il y a pas mal de visages que je ne connais pas. Moi, je m'appelle Roger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Soyez les bienvenus, ceux qui sont là depuis longue date. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir Claude et Elisabeth Becher qui nous visitent ce matin. Nous accueillons et merci de nous rejoindre. Claude et Elisabeth ont été parmi nous pendant quelques années. Claude était un de nos pasteurs et on se réjouit. Merci. Je vous invite à écouter ce psaume, le psaume 100. Acclamez l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour qui il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Que c'est bon d'entendre ce psaume ce matin au début de ce culte. Je vous invite à cette prière d'invocation. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ton amour parce qu'il durera toujours, pour ta fidélité qui va durer, qui s'étend d'âge en âge. Tu es bon Seigneur, tu ne changes pas, tu es. Nous te louons, car tu es notre Dieu. Et Seigneur, ce matin, en communion aussi avec tous les chrétiens du monde, et plus particulièrement avec ceux de Ukraine et de Russie, qui vivent des temps tellement difficiles. Seigneur, c'est dur de voir tout ça. Nous te prions pour eux, nous souffrons avec eux et nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. Et ces événements tragiques nous font réaliser combien notre monde a encore besoin d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Te prions, Père, pour que la paix, pour que ta paix se manifeste pour eux comme pour nous en ce moment. Nous t'accueillons, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous nous mettons à disposition pour te louer, pour t'écouter, pour nous laisser transformer. Amen. Alors les enfants, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors merci d'être venus. Il y en a où encore là-bas ? 7, 8. Vous pouvez venir devant, j'ai une petite histoire à vous raconter.
Il était une fois.
Exactement, il était une fois.
Oh, il y en a beaucoup.
C'est bon ? Voilà, vous m'entendez ? Alors ce matin, on va partir. Qu'est-ce qu'on va aller faire avec ça ? Chut. On va pêcher ? On va aller à la pêche. Alors dans mon histoire, c'était pas un filet comme ça, c'était des plus gros. Mais je n'ai pas pu amener un grand filet, je n'ai pas de copain pêcheur, mais j'ai pu trouver ça. Donc c'est l'histoire, un jour, il y a Jésus qui va au bord du lac de Génézareth. C'est un petit peu comme s'il allait au bord du lac Léman, là, pour rencontrer les gens, parce qu'il commençait à raconter des histoires ou à raconter des choses très importantes, et il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui le suivaient. Et puis le problème, quand il arrive au bord du lac, il y a une foule qui s'assemble, et puis qui s'approche de lui, et puis lui recule, et puis il risque de faire plouf dans l'eau, tellement il est poussé par la foule. Alors, tout d'un coup, il a une idée. Vous savez quelle idée il a ? Hein ? Tout d'un coup, au bord du lac, il voit une barque. Il en voit deux, au fait. Il voit une barque et puis il se dit, ah, si je me mets sur la barque, comme ça, un petit peu dans l'eau, les gens ne vont pas me presser, je ne vais pas tomber dans l'eau et tout le monde pourra me voir et m'entendre. Alors, il demande à Simon. Il est où, Simon ? Il est là, Simon. Tiens, Simon, tu peux tenir le bateau ? Alors, c'est marrant parce qu'il s'appelle comme toi, Simon. Et Simon était un pêcheur, et puis il avait ses potes, il y avait Zébédée, il y avait, je crois, encore Jacques. Ils étaient deux bateaux. Et puis, Voilà, ils étaient là. Puis Jésus demande à Simon, je peux monter dans ton bateau? Alors Simon dit, vas-y. Alors il met le bateau un petit peu au large, à 3-4 mètres du bord, et comme ça il peut parler à toute la foule qui l'écoute. Puis il parle longtemps. Puis une fois qu'il a parlé, Jésus dit à Simon, hé, Simon, prends ta barque et tes filets et va en eau profonde, va au large, et puis va repêcher. Mais il y a un problème, parce que Simon, il a passé toute la nuit avec ses copains, avec ses associés, avec Jacques et Zébédée, il a pêché toute la nuit, et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien du tout, ils n'ont rien attrapé, comme si dans ce grand lac, il n'y avait pas un seul poisson, que dalle. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si Jésus te demande, allez, on retourne pêcher, tu aurais été? Non, hein? Alors Simon, il a entendu Jésus aussi parler, puis il dit, ouais, ok, d'accord. Bah, sur ta parole, puisque tu le dis, je vais y aller. Bon, ils ont passé toute la nuit, ils sont crevés, hein? Alors il reprend son bateau, et il part au large, et il lance ses filets. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Il y a plein de poissons, il veut tirer sur le filet, ça ne vient pas tellement, c'est lourd. Donc il tire sur les filets. Comme ça grand, ouais, c'est des gros poissons. Alors il les tire et puis ils sont obligés d'appeler l'autre bateau, le deuxième, pour venir à l'aide, pour remplir, pour parce que les filets ils vont se casser tellement c'est plein. Alors ils remplissent les deux bateaux, puis l'eau elle arrive jusqu'ici. Quoi. Il ne faut pas qu'ils bougent trop parce qu'ils risquent de chavirer. Et puis quand ils arrivent au bord... Les pêcheurs, là, ils ont les boules, ils ont peur. Ils se demandent, mais qui c'est qui ce Jésus? Parce qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça ne s'est jamais fait, quoi. On appelle ça une pêche miraculeuse ou une pêche extraordinaire. Et puis Simon, il a les boules, il a les chocottes, il a peur. Mais qui est ce Jésus, quoi? Et puis il se rend compte, il vient au pied de Jésus, il vient vers Jésus, il dit, écoute, jamais j'arriverai à ta hauteur, je suis quand même trop petit, j'ai quelque chose qui ne va pas. Et puis Jésus lui dit, n'aie pas peur, Pierre, Simon, parce qu'il a appelé Pierre, après il a changé de nom. Et puis il dit à Simon, écoute, désormais tu ne vas plus pêcher des poissons, mais tu pêcheras des hommes. C'est bizarre, hein, pêcher des hommes. Hein. C'est un petit peu comme ça. Hein. Alors ça veut dire un petit peu pêcher des hommes, c'est-à-dire que Pierre, tout d'un coup, il va suivre Jésus parce qu'il a découvert Jésus et puis... Il va le suivre et puis s'il va jeter, c'est comme s'il va jeter des filets pour rassembler les hommes, pour leur parler de Jésus, puis parler de qui est Jésus. Voilà, alors voilà mon petit bateau et voilà Simon sur son bateau. Voilà, merci les enfants et je vous invite, on va chanter maintenant quelques chants de louange, merci à l'équipe. Et puis comme on l'a lu dans le psaume, on va chanter des chants joyeux, on va se réjouir d'être ici ce matin et de pouvoir chanter à Dieu et lui remercier pour qui il est.
Jamais Dieu est avec nous. Oui, c'est uni dans une même et profonde reconnaissance que se poursuit notre chemin en et avec Christ. À jamais, notre Sauveur, il est venu nous chercher au cœur de nos vies et dans nos circonstances. Ainsi, chaque jour en sa présence est un don merveilleux. Béni soit son nom. Ébloui par le soleil de ta gloire et de ton amour, ébahi par la force de ta grâce et de ta bonté, animé de ton Saint-Esprit qui brûle en nous, nous venons humblement t'adorer.
Je viens vers toi dans le secret.
Je, tu, il, elle, nous, à la suite de Christ. Te suivre, Seigneur, pour avancer dans les épreuves et les défis en grandissant. Oui, te suivre avec ambition pour que chaque jour soit un jour de fête en ta présence. Car tu fais briller sur moi, sur toi, sur nous, ton soleil. L'Éternel est mon berger, de rien je ne m'en fierai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil.
me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh,
merci, je vous invite à vous asseoir. Puis, vous savez, les enfants, ben, l'histoire que je viens de raconter, ben, Célina, tout à l'heure, juste maintenant, va nous la raconter pour les grands. Mais avant, j'aimerais prier pour les enfants et puis pour les monos. Seigneur, merci pour ces enfants qui sont là. Nous te prions ce matin spécialement pour eux, pour que tu aies une parole et qu'ils puissent comprendre déjà un petit peu plus qui tu es. Accompagne-les, accompagne aussi les moniteurs, les potes. Amen. Voilà, pour rejoindre l'équipe en bas, merci aux potes. Je lirai le texte de Luc 5, versets 1 à 10. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, que la foule le pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et nettoyaient les filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se rompre. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. »
Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour à vous qui viennent aussi en visite chez nous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour à vous qui êtes chez vous. Et bonjour aussi Elisabeth et Claude, c'est vraiment fabuleux de vous avoir avec nous. Merci d'être venus nous rendre visite. On se réjouit de vous parler un peu avec vous après. Bon, bah alors moi, ces histoires de bateaux, ça me met tout de suite le mal de mer. Donc le temps que je me remette, je vais demander à mon collègue Philippe de venir vous dire quelques mots. Heureusement, il est là, enfin, un bon binôme.
Ah, ça peut tanguer, hein. Et ça va tanguer. Ça va tanguer à deux occasions, toutes prochaines. Le samedi 16 avril prochain, nous aurons une journée de témoignages à Mérin-Centre, devant le CEPOM, qui met son esplanade privée à notre disposition. Et à cette occasion, nous tenterons d'être pêcheurs d'hommes. Il y a quelque chose comme ça, et ça pourrait tanguer. Mais réservez cette date, on vous en reparlera samedi 16 avril prochain. Et la semaine suivante, dimanche qui suivra Pâques, donc le 24 avril, nous aurons ici un culte découverte. L'occasion d'inviter des amis, des connaissances, des voisins qui peut-être se posent des questions sur la foi. Et à l'occasion de ce culte découverte, nous souhaitons dire la beauté et la pertinence de l'Évangile et espérer pêcher. Pécho, ça va tanguer.
Merci Philippe. Bon, ben voilà, en fait, j'essayais de trouver une introduction et voilà, c'est fait. Mais quel beau projet qui se met en place à Mérin, un projet de témoignage. On peut vivre des temps différents. Et le témoignage, ça va être le témoignage de l'Évangile, c'est de parler de cette bonne nouvelle aux autres, cette bonne nouvelle qui sauve. Alors s'il fallait un aspect pratique, une mise en pratique du message de ce matin, ben, elle vous est donnée avec ces dates-là. Car dans ce texte, Jésus donne cette parole à Simon. « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Pêcheur d'hommes, cela veut forcément dire... Non, pas encore. Merci. Je ferai pour Roxane. Pêcheur d'hommes, cela veut forcément dire que sa vie sera faite de rencontres tout à fait humaines. Et c'est sur cette barque de pêcheur, aux côtés de Dieu qui s'est fait homme... la personne de Jésus, donc, que Simon-Pierre vit un moment décisif dans sa vie. Jésus est une rencontre décisive pour Simon-Pierre. Et pourtant, ce moment sur le lac n'est pas leur première rencontre. Jésus et Pierre ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Juste avant ce récit, Jésus avait guéri la belle-mère de Simon. À partir du chapitre 4, donc juste avant, Jésus commence à se faire connaître en Galilée, la terre de son enfance. Beaucoup de monde le connaît là-bas, mais pas en tant que faiseur de miracles ou enseignant avec conviction sur le règne de Dieu. Donc, la présence de Jésus était loin d'être passée inaperçue ces derniers temps en Galilée. Elle était même très controversée. Il avait proclamé à la synagogue de Nazareth que le jour du Messie tant attendu était là. Ça a été un tollé en réaction à cette déclaration. La colère des Nazaréens a grondé. Et Jésus a remarqué que nul n'est prophète en son pays. Alors que les gens sont venus le chercher, s'emparer de lui pour tenter de le jeter du haut d'une falaise. Jésus a tiré passablement de regards sur lui, avec son enseignement et ses miracles. Il a attisé la colère de certains, mais il a aussi attisé la convoitise d'autres qui voulaient être au bénéfice des miracles divins. Finalement, beaucoup de monde en Galilée sont passés totalement à côté de ce que Jésus avait à offrir. La rencontre de Jésus et de Pierre n'est donc pas une rencontre de parfaits inconnus. Je dirais plutôt que c'est une rencontre de mise à l'épreuve de l'un vis-à-vis de l'autre. Pierre a déjà vu Jésus en action. Mais la vie de Pierre n'en a visiblement pas été modifiée pour autant. Pierre est toujours le même. Chaque nuit, il peine, il s'épuise sur sa barque pour une pêche infructueuse. Il y a quelques jours, pourtant, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il a vu sa belle-mère être guérie par Jésus. Mais cela n'a pas changé son monde. Jésus, je le crois, ne vient pas au hasard vers Pierre. Pierre, bien qu'ayant été le témoin d'un miracle personnel, la guérison d'un membre de sa famille, c'est quand même quelque chose de personnel, Pierre ne fait pourtant pas partie des gens qui harcèlent Jésus pour avoir encore et encore des miracles. Il ne fait pas partie de la foule qui s'amasse au bord du lac ce matin-là pour voir un miracle extraordinaire ou entendre une parole vibrante. Non, Pierre, lui, n'est pas là pour le spectacle. Lui, il est juste à côté, dans la vie ordinaire, celle des pêcheurs qui rentrent bredouille à la lueur de l'aube. Ce genre de spectacle quotidien, cela n'intéresse personne. Les gens poursuivent Jésus pour assister à une nouvelle prestation, peut-être même à une prestidigitation du rabbi Jésus. Car de tout temps, il y a eu des hommes pour ne voir qu'en Dieu, une sorte de distraction pour sortir de la morosité ou des souffrances. D'autres, au contraire, se sont fait les moqueurs et les assassins de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Et sans doute que cela vous est déjà arrivé à vous, que l'on se moque de vous pour votre foi. Ou alors que l'on vous dise « Très bien, je suis content pour toi, tu as Dieu, tu as l'Église, et ben moi, ben j'ai la musique !» Mes amis m'ont souvent dit ça quand j'avais 20 ans. Mais au milieu de ces gens-là, il y en a d'autres qui sont interpellés, qui recherchent, qui réfléchissent au sens de la vie, de leur existence. Il y a ceux qui ont besoin de preuves, qui ont besoin d'éprouver et d'être éprouvés. Alors selon moi, ce texte est une mise à l'épreuve à la fois de Pierre, mais aussi de Jésus. Car finalement, c'est une réaction vraiment humaine de vouloir être sûr de la personne à qui on confie sa vie. Je vais mettre le slide. Après avoir emprunté la barque de Simon pour enseigner cette foule agglutinée, Jésus demande à Pierre de repartir pêcher, là-bas, plus loin, en eau profonde. L'eau profonde, c'est le décor du nouveau miracle qui va se produire entre Jésus et Pierre. Ce matin, je vous ai choisi l'image du trou bleu au Belize, en Amérique centrale. Qui connaît cet endroit? Personne. Il a beaucoup été expliqué par le commandant Cousteau, si jamais. En fait, il s'agit de l'effondrement d'une grotte que l'océan a remplie après la fin de l'ère glaciaire. Le diamètre de cet effondrement est de 300 mètres et le gouffre est profond d'un peu plus de 120 mètres. Alors, je voulais vous montrer cette image pour parler des profondeurs des eaux. Quelle impression vous donne cette image? Êtes-vous émerveillé, captivé par ce bleu intense? Êtes-vous anxieux? Auriez-vous envie d'aller visiter cet endroit? Et je me demande, et là vous me direz si vous levez la main, qui aurait le courage de plonger pour visiter ce gouffre? Moi, pas. Si, Paul Robert, tu le ferais? Ouais, courageux, c'est bien. Quel mystère pourriez-vous découvrir au fond de ces eaux profondes? En regardant un reportage sur ce gouffre, j'ai compris que c'était un lieu difficile d'accès après 50 mètres de plongée. L'obscurité, mais aussi des courants très forts rendent l'exploration périlleuse. Les eaux profondes recèlent bien des mystères incertains, parfois inquiétants. Quand on part à la rencontre de quelqu'un, c'est comme si on rencontrait un autre monde. Qui sait d'où vient la personne que l'on rencontre, ce qu'elle vit dans son quotidien, si elle est malade, si elle souffre. Se lancer dans le grand monde pour témoigner, c'est aussi affronter l'inconnu. Nous sommes tous plongés dans de grandes incertitudes dans notre quotidien et sur l'avenir. Le coronavirus, qui n'est jamais très loin, et puis depuis 2 semaines, cette guerre en Ukraine. Tout cela rend terriblement anxieux. On le sait que ces circonstances plongent beaucoup de monde dans le désespoir. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes également profondément touchés par tout ce qui se passe avec tous ces drames. Alors que pouvons-nous vraiment apporter aux gens ? Pourquoi Jésus nous emmènerait-il en eau profonde pour jeter des filets ? Nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe en eau profonde. Pierre le savait, lui qui avait pêché toute la nuit en vain. Alors c'est avec plein d'incertitudes qui viennent bousculer ces certitudes de pêcheurs expérimentés que Pierre écoute la parole de Jésus et agit. Pierre écoute la parole de Jésus. La parole de Jésus va être éprouvée et puis prouvée. Jésus, lui, est sûr et certain de sa parole. Sans doute que Pierre, lui, il l'est un peu moins. Et même s'ils sont loin du bord, il est fort à parier que la foule curieuse est restée là au bord du lac pour voir ce que Jésus fera. Les yeux sont braqués sur Jésus, alors que ce sont les oreilles de Pierre qui ne perdent pas une miette de ce que dit Jésus. Et le miracle se produit. Une quantité astronomique de poissons se font piéger dans les filets des pêcheurs. Tant de poissons que les filets sont sur le point de craquer et que la barque elle-même est en train de couler. Pierre n'était pas prêt à ça. Encore heureux que ses collègues n'étaient pas très loin pour venir à son secours, pour l'aider à ramener tous ses poissons sur la rive. Être pêcheur de ce nouveau genre, être pêcheur d'hommes, apparemment, ce n'est pas un métier solitaire. Merci. Car oui, juste après, voilà, le terme est prononcé. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes, c'est quoi ce truc que Jésus invente ? En travaillant sur ce passage, j'ai pensé à ce musée sous-marin à Cancun au Mexique. Alors ok, c'est vrai, j'ai pas mal pensé à la mer des Caraïbes pour préparer ce message. Aurais-je besoin de vacances, à votre avis ? Mais bref, surtout, je trouve que ces sculptures sous-marines sont fascinantes. Elles sont l'œuvre de l'artiste britannique Jason de Kerr Taylor, qui a immergé toute une série de sculptures à visiter en plongeant. Il y a surtout des sculptures humaines qui me font penser à ce texte. Je me demande si on peut vraiment pêcher des hommes comme on pêche des poissons. Évidemment, je sais que c'est qu'une image. Une métaphore que Jésus emploie pour annoncer à Pierre un changement capital dans sa vie. Pierre devra saisir la vie humaine à l'image de la manière dont Jésus vient de se saisir de la sienne. Celui qu'on appelait Simon au début du récit de Luc devient Simon-Pierre. Quelque chose de solide s'est posé en lui, au moment même où il a osé se fier à la parole de Jésus. Tout de suite, après, se produit le miracle. Pierre reconnaît en Jésus le Seigneur. Et Pierre, en fait, est le premier homme à reconnaître en Jésus le Seigneur, là-bas, en Galilée. Et si vous lisez le chapitre 4, vous verrez que seuls les démons disaient de lui qu'il était l'envoyé de Dieu auparavant. Pierre se reconnaît comme un être humain trop indigne et sans doute bourré d'erreurs pour être approché par la présence du Seigneur. C'est ce que traduisent les termes « je suis un homme pécheur, plein de péchés ». Il demande à Jésus de s'éloigner, alors que jusqu'ici, tous les autres ont voulu s'emparer de Jésus après ses miracles pour exploiter la puissance divine. La rencontre qui se fait sur cette barque est bouleversante et elle bouleversera à jamais le chemin de vie de Pierre. Car dans cette barque, voguant en eau profonde, il y avait Jésus et il y avait Pierre. Pierre, authentiquement lui. Un pêcheur expérimenté, partagé entre sa vie quotidienne et quelque chose de plus profond en lui que Jésus est venu bouleverser. Pierre était authentique et vulnérable. Et la parole de Jésus l'a saisi, l'a pêché, l'a cueilli à ce moment-là. Être pêcheur d'hommes, c'est accrocher les hommes à la vie. En eau profonde, c'est vrai, il y a plein d'incertitudes. Comme dans ce monde, on le sait, il y a tant d'incertitudes, tant de choses pour lesquelles s'inquiéter. Mais la parole de Jésus nous est donnée. Elle est solide, elle est stable. Pierre a éprouvé sa fiabilité. Il a dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ce qui a déterminé ce changement de la vie dans la vie de Simon, quelque chose de possible dans ce qu'il semble être impossible, c'est cette parole. La parole que Jésus donne, la parole que Jésus incarne. La parole solide comme un rocher, quelque chose qui ne vacille pas, même en pleine houle. Simon connaît enfin cette solide parole, cette stabilité sur laquelle tout peut se construire. Simon devient Pierre, et sur cette pierre, l'Église de Dieu se construit. La parole est un point d'accroche dans notre vie, qui vient nous rejoindre à l'endroit même où nous laissons Dieu nous approcher, comme un hameçon qui se saisit de nous. Non pas pour nous capturer afin d'être dévorés comme de délicieux filets de perche, mais pour être amenés à la vie. La parole que reçoit Pierre l'a amené à la vie. Les mots si ordinaires que Jésus prononce « Va en eau profonde, jette tes filets » amènent Pierre vers l'extraordinaire de la vie. Pierre l'a vécu pour lui-même. Ainsi, de cette manière, il sera pêcheur d'hommes. C'est cela être témoin. Témoin de la parole, parfois ordinaire, qui donne la vie extraordinaire. Et vous-même, quelle parole de Jésus vous a saisi au point de vous amener à la vie alors que vous étiez immergé en eau profonde ? On arrive à la fin de ce message et j'aimerais qu'on prenne un temps de silence et puis après il y aura aussi un temps de prière libre. Et j'aimerais que dans ce premier temps de silence, nous puissions prendre un instant pour nous rappeler de cette parole, de ce moment qui nous a saisis dans nos vies personnelles à nous, sur notre chemin à nous. Cette parole, elle est peut-être venue vers vous une fois lorsque vous lisiez la Bible, ou alors dans un moment de prière, de louange. Elle s'est peut-être saisie de vous par l'intermédiaire des mots d'un ami, d'un parent, d'un enfant, parfois même d'un médecin, ou alors de parfaits inconnus. Elle est peut-être venue dans cette parole de manière totalement ordinaire et elle a rendu votre vie extraordinaire. Une parole qui a rendu votre chemin possible là où rien ne paraissait vraiment possible. Il est peut-être loin ce temps-là, c'est vrai, mais croyez-moi, il reste déterminant pour vous, pour nous, même pour moi. La parole stable sur laquelle votre vie en Dieu s'est construite, se construit encore. Cette parole qui a permis à l'œuvre de Dieu d'être sculptée en vous. Quelle parole vous a saisi au plus profond de vous, là où vous êtes vulnérable et authentique? Et si vous êtes là et que cette parole-là ne s'est pas saisie de vous, alors prenez ce temps qui vous est offert pour essayer un petit peu d'aller en eau profonde, là en vous. Car c'est souvent là que cette parole de Dieu descend pour nous saisir. La force de la parole de Dieu, c'est de nous ramener à la vie. Elle est en nous pour toujours. Et c'est vrai, on peut la partager. Amen.
Nous voulons vous offrir maintenant, pour ceux qui veulent à haute voix exprimer ce que vous avez reçu, ressenti, cette parole ou ce qui a résonné en vous après ce que nous a apporté Célina. Veuillez nous faire signe, nous passerons avec le micro pour que ceux qui sont chez eux, devant leur ordi, puissent vous entendre.
Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. Merci pour cet amour que tu as pour Pierre. Et dans ta parole, il est dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. Et merci pour les promesses que tu as mises dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, cette soif de toi, c'est ton esprit qui l'a mise en moi et c'est ton esprit qui la comble aussi et qui continue jour après jour de la combler. Alors je te loue et je te bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, sur ta parole, comme l'a dit Pierre, je veux jeter mes filets, je veux te faire confiance, je veux m'attendre à l'extraordinaire, je veux m'attendre à ce que ces filets se remplissent. Oui, Seigneur, je veux te faire confiance parce que tu es fiable, tu es stable, tu es solide. Je te bénis. Amen. Voilà, j'invite notre équipe pour nous conduire dans un temps de préparation au repas du Seigneur, la Sainte Cène que nous allons prendre ensemble. Je vous invite à vous lever et à chanter numéro 553 en tendant votre oreille et de faire ces paroles que vous chantez, de vous faire les vôtres.
Tu es venu.
vous invite à vous rasseoir. Merci Claude de me rejoindre, c'est sympa. Le repas de communion que nous allons prendre, que nous allons partager ensemble, c'est quand même le symbole par excellence par lequel le Seigneur nous a manifesté, nous a montré la bonne nouvelle, l'Évangile. Dieu fait grâce à celui qui place sa confiance en lui. Oui, Dieu a tant aimé notre monde. Tu nous as tellement aimé que tu as donné ton Fils, ton unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en toi n'échappent pas à la perdition, mais qu'ils aient la vie en abondance, la vie éternelle. Tu aimes toujours ce monde, Seigneur. Cette bonne nouvelle est d'autant plus pertinente aujourd'hui dans ce que nous vivons. Notre monde a besoin d'entendre. Je relis les paroles du chant que nous venons de chanter. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Voyez ses mains, voyez ses pieds, pour nous témoins de ce sacrifice. Les mains qui formaient la terre se livrent au clou de la colère. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, disait Paul, que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour.
Seigneur, Dieu de la vie, Dieu de l'amour, qui t'est donné pour nous, pécheurs, nous te remercions pour ton accueil. Nous en sommes les premiers bénéficiaires de cet amour, Seigneur. Et nous sommes aussi de ceux qui ont contribué à ce corps rompu. Pardonne-nous, Seigneur, à ce sang versé dans la violence. Pardon, Seigneur. Seigneur Jésus vivant, dans son corps, à la droite du Père, vivant aujourd'hui, nous t'adorons parce que ton amour nous a touchés, ton amour nous a rejoints, ton corps donné nous a reformatés par ton esprit. Nous te remercions pour ce repas de communion avec tous ceux qui invoquent ton nom, qui reconnaissent être dépendants de ta grâce. Merci d'avoir accepté chacun d'entre nous à ta table. Cela nous touche et fait de nous des frères et des sœurs. Donne-nous ce cœur malléable, transformé, pour que, à notre tour, ceux qui sont plongés, ceux qui sont immergés dans la détresse, puissent entendre quelque chose. Puissent entendre quelque chose de ton amour, Seigneur. Autour de cette table, nous te disons, mon âme bénit le Seigneur. Et reconnaît que de lui vient la vie. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
J'invite les quelques personnes que j'ai demandé de venir nous aider à partager le pain et le vin. En prolongement de ce temps de communion, je nous invite, je vous encourage à répondre, à nous engager, à concrétiser notre foi en chantant et en proclamant le chant suivant. Me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté, que par ma bouche tes paroles me soient données. Oui, que pour ces jours qui viennent, pour demain, déjà aujourd'hui, pour demain, pour cette semaine et ainsi, que ma bouche puisse être porte-parole et que je puisse être témoin de cette paix. Je vous invite à vous lever. Je vous invite encore à vous asseoir. Vous avez aussi la possibilité d'apporter votre offrande dans la petite boîte qui est au fond, ou bien le faire par Twint ou par tout ce qu'on veut comme possibilité de le faire depuis la maison. En tout cas, merci pour votre générosité. Johan, je t'attends, tu es là?
Bonjour à tous. J'aime bien quand on prend la scène et qu'on rappelle que quand on la prend, c'est pour se souvenir de Jésus-Christ, mais aussi d'annoncer son retour. Et je trouve que cette espérance-là, dans le monde dans lequel on vit, cette espérance, c'est quelque chose de fort sur lequel on peut s'accrocher et ça fait du bien. Et l'Église n'est pas là pour attendre ce moment-là uniquement, mais bien sûr de vivre des choses en communauté. Et donc, le temps des annonces, c'est aussi de montrer ce que l'Église vit tous les jours et peut vivre aussi. Donc, vous avez à disposition le mémo. Il y a quelque temps, il était distribué sous forme papier. Il est aussi disponible en ligne, sauf erreur, que dans la partie membres. Donc, si vous voulez des indications pour ceux qui n'y ont pas accès, vous pouvez vous adresser soit directement au conseil, soit au travers de nos pasteurs. Ce mardi 15 mars à 20h15, la prière communautaire qui a lieu ici. Jeudi 17 mars, on se voit avec le conseil à 19h15. Vendredi 25 mars, vous avez reçu l'indication pour le colloque, donc qui est l'Assemblée générale, le lieu où on prend des grandes décisions, où on s'informe aussi de la vie de l'Église. Ensuite, le mardi 5 avril, à 14h30, le fil d'argent. Alors, il y a des flyers qui sont à disposition à la sortie. Je crois que la slide n'est juste pas passée, André. Mardi 5 avril à 14h30, le fil d'argent, un projet médical du SME au Bangladesh. Et sauf erreur, c'est ouvert à tous. C'est juste ? Oui, c'est ouvert à tous. Donc, vous avez des flyers à disposition à la sortie sur le tableau d'affichage. Ensuite, des événements autour de Pâques. Alors, c'était dit un petit peu en préambule par Philippe. Avec le vendredi 15 avril à 18h, l'office à la croix. Le samedi 16 avril, et là, j'invite Jean-Christophe à nous dire deux mots.
Voilà, alors pour cet événement du 16 avril, c'est le samedi de Pâques, évidemment. La journée, comme Philippe l'a dit, a lieu au CEPOM. Et puis, donc, cet événement est co-organisé avec les paroisses protestantes et catholiques. Alors, évidemment, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des passants pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, on vise une organisation simple, hein, qui soit gérable. Et puis, mais on va pas gérer tout seul. Donc, on a besoin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on recherche ? Évidemment, on recherche prioritairement des personnes qui ont une bonne nouvelle à annoncer. Hein ? Mais pas n'importe quelle bonne nouvelle, celle qui a fait, évidemment, changer votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Alors, on cherche aussi des personnes qui ont à cœur de prier pour cet événement. Et puis, des personnes qui mettent la main à la pâte à biscuits, parce qu'on voulait proposer aux passants quelques petits biscuits. Donc, il y aura des précisions par rapport à ça dimanche prochain, puisqu'on a encore une rencontre d'organisation vendredi, en espérant avoir les autres membres des autres paroisses pour faire ça vraiment en commun. Alors, l'équipe qui gère ça, il y a Zena, Irisou, Boris et moi. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Merci.
Donc voilà, ça c'est le samedi 16 avril, journée de témoignage. Le dimanche 17 avril, culte de Pâques en famille. Le samedi 23 avril, concert avec Adonia au CEPOM. Et je crois qu'on a peut-être le flyer. Oui, Daniel, oui. Voilà. Donc vous trouvez aussi à la sortie quelques flyers, donc ce concert, comédie musicale à Donia. Dimanche 24 avril, culte découverte, ce qui a été annoncé par Philippe. Donc vous voyez, on a toute une série ici de choses qui se passent autour de Pâques, qui vont s'enchaîner. Et puis dimanche 1er mai, les baptêmes, donc il y aura quelques baptêmes. Et puis les personnes qui sont intéressées par un baptême ou se poser des questions, ce que c'est un baptême, il y a une matinée de formation qui est prévue le samedi 19 mars. Ensuite, le 22 mai, il y a la sortie d'église. Et ça passe pas. Non, ça passe pas. Décidément, c'est... Tu veux dire quelques mots ? Oui, j'y viens après. Ok, alors sortie d'église le 22 mai, dimanche 22 mai. Et puis, vous aurez plus d'informations quand le flyer. Tu veux dire quelque chose pour le 22 mai ?
Quand même pour le 22 mai, ça sera l'occasion de sortir dans le Jura, dans la vallée de Joux. Et puis, ça va être une journée très, très cool, très, très conviviale. On va pouvoir faire des grillades. Et puis, ça serait super pour les nouvelles personnes, l'occasion de faire votre connaissance. On va accentuer un petit peu ça. Il y a aussi quelque chose pour les potes du dimanche. Il y a quelque chose qui s'organise. Donc, on va passer une belle journée, assez tranquille, relax et dans un joli cadre.
Merci. Alors, oui, je viendrai pour ce soir tout à l'heure. Ah, ben voilà. Merci. Alors ensuite, dans des annonces générales, donc Anne-Marie Wenger m'a dit qu'elle avait une vingtaine d'exemplaires du livre « Tour du monde en prière » au prix spécial de 10 francs. Donc c'est un livre qui est édité par la VEC. Il présente 52 pays, 34 peuples, et quelques thèmes particuliers pour encourager à prier pour ces personnes-là avec des sujets de reconnaissance et d'intercession. Encore une annonce pour les groupes nettoyage, donc, qui ont reçu un questionnaire de satisfaction par Claire Lise. Donc n'oubliez pas de lui renvoyer d'ici au 20 mars ce questionnaire. C'est important parce que ça permettra d'en parler au colloque du 25 mars. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que les groupes ont toujours besoin de renforts, donc il y a la possibilité de s'inscrire pour des remplacements ponctuels ou pour du long terme, bien sûr. Et puis, le caté qui a besoin de renforts pour les goûter, pas pour les manger, quoique on aimerait bien avoir peut-être plus de jeûnes, mais bien sûr pour les préparer. Donc le caté, c'est tous les 15 jours, c'est le vendredi à 17h. Donc il y a une liste à l'extérieur, ou bien vous pouvez vous approcher de Rebecca Terra, ou de Philippe, ou de Joël, et de Mireille. Voilà. Et puis, finalement, pour cet après-midi, je ne sais pas si Daniel est là. C'est toi. Donc la boussole et le baluchon, je te laisse venir.
Donc pour cet après-midi, 17h30, donc aura lieu ici donc un spectacle lyrique « Boussole et baluchon » basé sur un texte de Maurice Gardiol. Donc vous êtes cordialement toutes invitées. Donc c'est l'entrée gratuite, il y aura un chapeau à la sortie. J'ai juste besoin peut-être de trois solides gaillards pour m'aider à débarrasser ce qu'il y a ici, de façon qu'on puisse laisser libre la place aux musiciens. Et puis j'aurais aussi besoin, le soir même, peut-être de deux ou trois personnes pour la collecte et puis pour l'accueil. Alors si vous pouvez, venez vers moi, et puis comme ça on organise tout ça. Mais je vous donne rendez-vous donc à 17h30 pour ce spectacle musical et de texte biblique, qui est un très beau moment. Merci.
Alors je vous laisse et je vous dis bon dimanche.
Et moi-même, je vous demande de vous lever pour la bénédiction finale que je vais lire dans Jacques 1, les versets 22-25. Seulement, ne vous contentez pas d'écouter la parole. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. La parole de Dieu est solide et sûre. Elle est fiable pour nous tous qui sommes plongés dans un monde si déroutant. La route du Christ ne se dérobera pas sous vos pas. À chaque pas, vous trouverez votre sécurité en lui. Que la paix vous accompagne dans votre semaine et chacune de vos rencontres. Amen.